garantie 7 ans. Voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pensez à covoiturer.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Chez Orange, on sait que le porte-monnaie de Clara pendant les fêtes, il a...
Bien mangé.
Et elle ne serait pas contre ?
Oh, des petites réductions.
C'est pour ça que du 7 janvier au 3 février chez Orange, pendant les soldes, il y a jusqu'à 60% de remise sur une sélection de téléphones neufs et reconditionnés, ainsi que sur des accessoires.
Et ouais, savourez sans culpabiliser.
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 février en France métropolitaine et jusqu'au 29 janvier en Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. Conditions détaillées en boutique Orange et sur orange.fr.
Europe 1, il est 15h. Les informations, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Les premiers militaires français sont arrivés ce matin au Groenland. Des chasseurs alpins qui participent à une mission militaire européenne avec la Suède, l'Allemagne et la Norvège. Les soldats français seront bientôt appuyés par des moyens terrestres, maritimes et aériens dans les prochains jours. Le Groenland convoité par Donald Trump. Il répète que les États-Unis ont besoin du territoire arctique pour des raisons de sécurité nationale et notamment pour contenir les avancées de la Russie et de la Chine. La Russie se dit sérieusement inquiète après l'envoi de troupes de l'OTAN. L'Arctique doit rester un territoire de paix, de dialogue et de collaboration équitable, a déclaré la diplomatie russe. Emmanuel Macron appelle l'Iran à cesser ses attaques odieuses contre les manifestants. Donald Trump affirme que les tueries ont pris fin, mais il n'exclut toujours pas une intervention militaire. La répression a fait plus de 3 000 morts, 20 000 selon certaines sources. L'Iran assure que le manifestant Erfan Soltani, arrêté samedi dernier, ne sera pas exécuté comme le craignaient les États-Unis. Des organisations de défense des droits de l'homme. Il est accusé de rassemblement contre la sécurité nationale et de propagande contre le système. La loi ne prévoit pas la peine capitale pour ces chefs d'accusation, précise le pouvoir judiciaire. La cour d'appel ne tranchera que lors du délibéré. Marine Le Pen devra donc attendre avant de savoir si plusieurs contrats d'assistants parlementaires seront retirés du dossier. Des contrats pour lesquels la chef de file des députés RN a été condamnée en première instance. Yannick Agnel sera jugé pour viol sur mineur devant la cour criminelle du Haut-Rhin. Le recours de l'ancien champion olympique de natation a été rejeté. Lui a toujours plaidé une relation consentie et amoureuse. Yannick Agnel est soupçonné d'avoir eu une relation en 2016 avec la fille de son entraîneur, alors âgé de 13 ans. Lui en avait 24. Tous les agriculteurs qui étaient en garde à vue ont été relâchés. Une cinquantaine avaient été interpellés hier après avoir forcé l'entrée d'une annexe du ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs toujours mobilisés à 2 jours de la signature de l'accord avec le Mercosur. Le taux du livret A sera abaissé à 1,5% au 1er février contre 1,7% actuellement. Celui du livret d'épargne populaire réservé aux plus modestes passera à 2,5%, un nouveau taux supérieur à l'inflation, précise le ministère de l'Économie. Le Finistère est en vigilance orange pluie et inondation, des pluies qui s'accompagneront d'un bref coup de vent. Pas d'amélioration prévue avant la fin d'après-midi. Et puis c'est aujourd'hui que débute l'Euro de handball. La compétition est organisée dans 3 pays, le Danemark, la Suède et la Norvège. Les Bleus, champions d'Europe en titre, affrontent ce soir la République tchèque. Coup d'envoi à 18h.
Europe 1.
Il est 15h03 sur Europe 1. Et si on en parlait, c'est maintenant.
Merci Émilie Dez. On vous retrouve dans une demi-heure pour d'autres infos. À tout à l'heure.
Marie-Estelle Dupont,
15h-16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle.
Bonjour Romain.
Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, votre regard de psychothérapeute tous les jours entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast évidemment sur l'application Europe 1. Aujourd'hui, vous vouliez parler des malades dangereux. On les qualifie parfois de déséquilibrés, on les déresponsabilise parfois lorsqu'ils ont commis un crime. On va parler des liens entre psychiatrie et justice.
Oui, absolument. Face à la violence récurrente, on aimerait avoir la consolation de la psychiatrie. Et je crois que dans un monde qui n'a de cesse de nier la différence entre le bien et le mal, mais aussi entre la vérité et le mensonge, la barbarie nous laisse d'autant plus démunis. Alors, coûte que coûte, on appelle le psy, le sociologue ou le biologiste. Expliquez-nous une enfance difficile, un dérèglement neurologique, la pauvreté, enfin, dites-nous quelque chose. Et pourtant... Je crois que c'est important de rappeler que le mal et la maladie mentale sont deux catégories qui ne se recouvrent pas. Parfois, elles se rencontrent. Le mal existe, il a mille visages, du pervers qui humilie à l'adolescent qui tue pour un regard, du terroriste impulsif au psychopathe en cravate qui sourit avec sarcasme devant la souffrance de ses proches. La maladie mentale, elle, est très souvent silencieuse. Elle tue lentement et d'abord celui qui l'a subi. Vouloir déresponsabiliser le criminel en cherchant parfois une pathologie qui n'est pas là, c'est insulter les millions de malades qui ne passeront jamais à l'acte. Et oui, je vous le dis, chers auditeurs d'Europe 1, vous risquez plus de mourir foudroyé que tué par un schizophrène. La folie fait peur, soit. De là à lui prêter le monopole de la violence, il s'agit tout de même d'un sacré mécanisme de protection de notre part. Et puis, il y a ces zones limitrophes. Ces malades qui passent à l'acte sans délirer. Ces criminels sans antécédents qui semblent entrer dans une psychose pendant une bouffée délirante qui leur fait commettre l'irréparable. Ce mystère complexe de la nature humaine est largement insondé. Et la psychiatrie est, je crois, une école d'humilité. Elle n'épuisera jamais le mal. Sa mission est de comprendre et soigner la maladie mentale et rien d'autre. Alors, pour remettre un peu de clarté dans cette notion de dangerosité si souvent floue et dont le diagnostic, on le voit bien, est très incertain, je reçois Laurent Layet, psychiatre et auteur du très beau livre « Au pays des ombres » aux éditions Mareuil. Bonjour Laurent Layet et merci d'être avec nous et avec les auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
Bonjour docteur. Marie-Estelle, on va parler donc pendant une heure des malades dangereux, de psychiatrie, de déséquilibrés. C'est vrai que ce sont des notions, quand on n'est pas, j'allais dire, dans le métier, quand on n'est pas médecin, des notions floues. On a souvent en tête, d'ailleurs, l'idée que les malades mentaux sont plus dangereux que les autres. C'est pas vrai ?
Oui, et c'est vraiment quelque chose, je crois que c'est important, aussi bien du point de vue de la justice que de la maladie mentale, de sortir de cette idée reçue un peu romantique, que le malade mental serait un fou dangereux systématiquement. Mais encore une fois, les schizophrènes ne sont pas de grands criminels, par exemple. Et donc, le crime n'a pas forcément l'excuse de la psychose. A contrario, un jeune complètement dissocié peut planter un couteau sans aucun remords, mais il n'est pas il n'est pas délirant et il n'est pas atteint de pathologie mentale. Alors, il est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'a aucune empathie, il est coupé de tout affect. Donc je pense que c'est très important aussi bien pour poser un regard beaucoup moins clivant sur la maladie mentale et rappeler quand même qu'on est tous susceptibles un jour ou l'autre de décompenser et de souffrir d'une pathologie mentale. Et d'autre part aussi, pour cesser d'aller chercher des excuses et une irresponsabilité là où ce sont d'autres paramètres qui ont précipité dans la violence, notamment des paramètres éducatifs.
J'aurais voulu
poser une première question au docteur Layet. D'abord, je vous remercie parce que votre livre est très émouvant, il est saisissant, il est en même temps chirurgical. C'est vraiment une quête à chaque ligne pour être au plus près de la vérité psychique des patients. Il m'a beaucoup touché, il m'a rappelé mes premières années où j'étais dans une unité fermée avec des malades difficiles. Et c'est vrai qu'on est habité quand on est psychologue ou psychiatre par cette tension permanente dans la recherche de la juste posture avec ses patients et qui nous emmène en fait là, on a à la fois très envie d'aller et très peur en même temps. Je crois que pour les auditeurs d'Europe 1, ce serait important que vous nous redonniez un petit peu la définition et surtout la manière dont on évalue la dangerosité d'un patient qui est en unité pour maladie difficile avec une injonction de soins.
Alors, encore aujourd'hui, on différencie deux types de dangerosité. La dangerosité psychiatrique, c'est-à-dire celle qui est sous-tendue par certains troubles mentaux, c'est une maladie mentale. Et donc, cette dangerosité-là, elle est bien connue, même si, comme vous l'avez à juste titre souligné, elle est rare. C'est-à-dire que la plupart des malades mentaux ne sont pas dangereux. Or, si aujourd'hui, vous tendez un micro dans la rue et puis que vous prononcez le mot de schizophrène, la première chose qu'on vous dira, c'est dangerosité. Alors que c'est pas vrai. 99% des schizophrènes sont des gens plutôt en perdition, qui doivent gérer des troubles chroniques, qui sont plutôt victimes de la société. Mais il faut pas méconnaître qu'il y a un petit pourcentage, 1%, pour lesquels la maladie va s'exprimer par l'agir et par le passage à l'acte. Et c'est cela que les psychiatres doivent prendre en charge, et c'est cette dangerosité-là qu'on peut anticiper. Mais à côté de cette dangerosité psychiatrique, il existe une dangerosité qu'on appelle criminologique, qui est un concept beaucoup plus large. Et c'est là où on a tendance à la confondre. C'est-à-dire que la dangerosité criminologique, elle inclut la dangerosité sociale, elle inclut donc énormément de facteurs qui ne sont pas des facteurs psychiatriques. Et c'est cette dangerosité-là que l'on voit tous les jours dans les médias.
Marie-Estelle, oui.
Et je pense que c'est important de rappeler que les unités, les UM, ce qu'on appelle les UMD, hein, les unités pour malades difficiles, il y en avait 4 en France jusqu'en 2002 où il y a eu cette affaire terrible d'un patient qui a assassiné 2 infirmières. Et suite à cela, on s'est dit, enfin Nicolas Sarkozy a demandé à ce que plus d'unités pour malades difficiles soient créées en France. Je crois que c'est important de rappeler que c'est d'abord des lieux de soins avant d'être des prisons.
Ah oui, complètement.
Ce ne sont pas des prisons, ce sont d'abord des lieux de soins.
Oui, c'est un
avec
hôpital.
Cette difficulté. C'est dans l'hôpital. Hein. Moi, quand je travaillais, il y avait le service semi-fermé, et puis l'unité véritablement fermée, qui nous fait rentrer avec beaucoup de sas, beaucoup de clés, beaucoup de précautions dans un univers où il y a effectivement beaucoup de précautions qui sont prises pour qu'aucun passage à l'acte ne soit possible et des tables qui sont vissées au sol. Je crois que ça, c'est important de rappeler que la particularité pour les psychiatres qui travaillent, c'est aussi qu'ils sont en lien en permanence avec l'administration et vous dites dans votre livre que justement ce lien avec l'administration est ralenti parfois la prise en charge des patients.
Ah ben,
est-ce que vous pouvez nous éclairer
oui,
sur
alors,
ce point ?
Aujourd'hui, les hôpitaux, c'est des grosses machines et les hôpitaux psychiatriques n'échappent pas à cette règle-là. Et avec l'image que renvoie la maladie mentale, y a besoin de lieux sécurisés. Mais les UMD restent des îlots à l'intérieur desquels du soin est encore possible. Alors c'est vrai que ça a une image assez austère parce qu'il y a des mesures de protection de l'intérieur des services vers l'extérieur des services, mais à l'intérieur de ces services, il y a la possibilité d'une humanisation et de prise en charge de pathologies qui sont lourdes. Parce qu'en fait, les UMD, c'est quoi ? C'est un équivalent de service de réanimation pour la médecine. Là, c'est une forme de réanimation pour la psychiatrie, c'est-à-dire qu'elle y concentre les pathologies les plus graves.
Vous êtes le directeur de l'UMD de Montfavet, près d'Avignon. Quels sont les profils des différents des malades que vous accueillez ?
Alors, il y a 3 types de profils, essentiellement. Le premier, ce sont des malades qui sont hospitalisés dans des services ordinaires, mais avec lesquels les services classiques de psychiatrie ne s'en sortent plus, soit parce que il y a des échecs dans la thérapeutique, comme dans toutes les maladies. Hein, je veux dire, la psychiatrie fait pas exception. Soit parce que le deuxième type, c'est des patients qui ont été irresponsabilisés, donc c'est-à-dire pour lesquels on a reconnu une abolition du discernement au moment de leur passage à l'acte, et donc ils sortent orienté non pas vers la prison, mais vers les soins. Et il y a un troisième type de patient qui est accueilli, ce sont des gens qui sont détenus, mais qui présentent des troubles mentaux en détention, et dont les troubles mentaux les rendent incapables d'être maintenus en détention. Donc voilà les 3 types de malades qu'accueillent les UMD.
Et notamment d'ailleurs parce qu'en prison, ils sont l'objet de maltraitance ou d'humiliation, etc., du fait de leur maladie mentale. Quelle est la finalité de ces séjours donc en unité pour malades difficiles ? Comment est-ce que je pense pour les auditeurs d'Europe 1, c'est important de se représenter comment ils en sortent et quelle est la suite après ? Comment ils sont pris en charge après l'unité pour malades difficiles ?
Alors l'idée, c'est qu'ils aient des soins dans un lieu qui soit sécurisé. Ça, c'est un premier point, parce qu'il ne faut pas méconnaître qu'il y a des passages à l'acte qui sont possibles. Ensuite, c'est des séjours qui sont souvent plus longs que dans les services ordinaires, parce que la maladie mentale nécessite souvent le temps long pour être soigné. Et c'est des services qui nécessitent aussi d'avoir des moyens humains qui soient plus importants, parce que en psychiatrie, on soigne beaucoup avec l'humain. Mais sortir du UMD, et je tiens à le préciser, la sortie des patients de l'UMD n'est pas décidée par les médecins de l'UMD. Elle est décidée par une commission indépendante. Donc c'est elle qui statue. Et une fois qu'un patient sort de l'UMD, il rentre dans l'unité où il était originellement. Donc s'il était en détention, il revend en détention. S'il était en psychiatrie, il revend en psychiatrie. Mais il y a très rarement, en fait, c'est plus qu'exceptionnel, voire jamais, de sortie sèche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patients d'UMD qui vont directement à l'extérieur.
Mais c'est important de le rappeler pour les auditeurs d'Europe 1, je pense, parce qu'il y a quand même une grande angoisse par rapport à ces malades. On a la représentation, en fait, qu'ils sont forcément très dangereux.
Marie-Estelle, la peur de la folie se traduit souvent par l'emploi incorrect de certains termes. Vous l'avez évoqué dans votre édito au début de l'émission. Est-ce qu'on peut y revenir ?
Oui, c'est intéressant de voir comme l'imaginaire collectif a une espèce de peur de la folie. On a peur de la folie et donc il arrive, quand on ne connaît pas la définition exacte technique des mots, de très mal employer les mots. Et moi, parfois, ça me fait un peu bondir quand je lis des articles. Évidemment qu'un journaliste, il n'a pas un master de psychopathologie, mais il ne faut pas diffuser les mots comme paranoïa ou phobie ou c'est la psychose. Vous voyez un attentat, puis on vous écrit c'est la psychose. Mais non, c'est un attentat, ce n'est pas une psychose. Et en fait, le fait que le langage courant utilise des termes inappropriés, ça renforce aussi cette assimilation entre la folie et la violence. Et je pense que ça scotomise l'idée que le mal existe et qu'on est vraiment dans une anthropologie hyper matérialiste où on a nié la différence entre le bien et le mal. Et le mal n'a pas toujours l'excuse de la maladie. Et à contrario, je reviens sur ce que je disais dans l'édito, ça stigmatise énormément les malades mentaux. Et je pense que c'est important de rappeler que psychopathe, sociopathe, paranoïaque, c'est des termes très précis qui correspondent à des critères. Si un ensemble de critères n'est pas réuni, on ne peut pas poser cette étiquette, en fait. Et donc, ça a des conséquences quand on le fait. D'abord, ça aggrave ce regard sur la folie, puis ça fait oublier quelque chose, je crois. C'est qu'il y a quand même un continuum du normal au pathologique. Là, on parle de patients exceptionnels, mais pour chacun d'entre nous, il est possible qu'au cours de notre vie, nous ayons un trouble psychologique, nous décompensions à un moment donné et que nous guérissions. Et donc, je pense que c'est important de ne pas regarder la maladie mentale un peu de manière très projective et justement parano. En gros, c'est toujours l'autre qui est fou, et de comprendre qu'on a cette possibilité de tomber malade physiquement, mais aussi psychiquement, et de s'en remettre. Et je pense que c'est très important de remettre ça au centre du débat, parce que j'ai vu en psychiatrie des guérisons inespérées chez des patients qu'on pensait complètement condamnés et puis qui s'en sont sortis dans une sublimation par l'activité artistique notamment, hein, qui ont mis toute leur bipolarité dans la peinture. Et puis à contrario, on voit des gens qui ont l'air complètement normaux et qui un jour décompensent de manière extrêmement violente.
Docteur Layet.
Alors, je vous rejoins tout à fait sur deux points, hein, et que je résumerai ainsi. La plupart des crimes fous ne sont pas commis par des fous. Ça, c'est un premier point. Et je vous rejoins aussi sur la deuxième chose, c'est-à-dire que beaucoup de termes psychiatriques sont tombés dans le langage courant. Et en tombant dans le langage courant, ils ont perdu leur sens. Et effectivement, ils font peur. Donc, schizophrène, paranoïaque, pervers, etc. Or, ça renvoie à des pathologies psychiatriques qui sont bien déterminées et qui, des fois, sont très éloignées de ce que pensent les gens. Quand on dit psychopathe, dans la rue, ça renvoie peut-être à une certaine image, alors que pour un psychiatre, un psychopathe ou un maniaque, par exemple, voilà le terme de maniaque. Mmh. Alors, la manie en psychiatrie, c'est plutôt une agitation, ou alors dans le langage courant, c'est plutôt quelqu'un qui est très ordonné.
C'est obsessionnel,
voilà,
du ménage.
Alors que c'est pas du tout.
Oui. Vous dites la plupart des crimes fous ne sont pas commis par des fous. Mais alors prenons un exemple précis. Bien malheureusement, on lit souvent dans les journaux un homme qui a tué son ex-compagne et les enfants. Voilà, ça c'est quoi pour vous? C'est un acte de folie, mais qui n'est pas commis par un malade.
C'est ça,
qui
n'est pas sous-tendu par une maladie mentale. Donc effectivement, on peut commettre un acte fou sans forcément avoir une maladie mentale. Mmh. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, l'irresponsabilité pénale pour raison psychiatrique, c'est-à-dire les gens qui sont dirigés après un acte grave vers l'hôpital plutôt que vers la prison, c'est 0,4%. Donc c'est anecdotique, ça concerne quelques centaines à peine de personnes par an.
Comment se passe justement un entretien? Alors le terme est peut-être pas le meilleur, une consultation d'évaluation, voilà l'expertise.
Ah, l'expertise, alors l'expertise c'est un acte qui est extrêmement codifié, parce qu'elle est codifiée par la justice. D'abord, c'est un magistrat qui vous désigne, et lorsque le magistrat vous a désigné, vous devez répondre aux questions qui sont posées par le magistrat. Alors certes, il y a deux questions principales qui intéressent la justice, c'est la question du discernement, est-ce qu'il avait toutes ses facultés mentales au moment de son passage à l'acte, parce que c'est ça qui va déterminer ou non l'irresponsabilité, et ensuite la question de la dangerosité. Et la troisième question maintenant qui intéresse la justice, c'est si on met des soins, est-ce qu'on diminue leur dangerosité? Voilà un petit peu. Donc, c'est pas des entretiens. Alors, si ça prend l'aspect d'une communication verbale avec quelqu'un, mais il y a le dossier d'instruction, il y a le dossier médical, et puis il y a aussi un certain nombre de symptômes. En fait, c'est une analyse sémiologique, une recueil de signes cliniques. C'est ça, en fait, une expertise psychiatrique. C'est pas une conversation amicale avec un individu.
Et on combine en général d'ailleurs l'expertise du psychiatre et l'expertise du psychologue parce que ils ont des formations complémentaires et que les psychologues qui sont experts auprès des tribunaux peuvent faire passer ce qu'on appelle des tests de personnalité profonde qui vont permettre d'évaluer, de donner des compléments d'information aux psychiatres sur le risque de récidive, sur le risque suicidaire, etc., etc. Et je pense que c'est très important de rappeler aux auditeurs d'Europe 1 que dans une expertise psychiatrique, justement, les compétences du psychologue et les compétences du psychiatre se combinent pour aboutir au profil le plus complet possible. Le problème étant évidemment aujourd'hui que très souvent, on a un manque de moyens et de temps dans la justice. Puisque l'argent est plutôt alloué vers des choses très administratives et que donc parfois les expertises n'ont pas suffisamment de temps pour être approfondies.
Oui.
Alors, dans votre livre, vous revenez assez longuement sur l'histoire de Denis Zinot. Parce que c'est un cas très intéressant, c'est-à-dire que nous, on a plutôt tendance à constater aujourd'hui dans les journaux que, notamment dans l'affaire Sarah Halimi, que parfois on utilise la pathologie pour plaider l'irresponsabilité et diminuer sa peine, et Denis Zinot est l'illustration inverse, c'est-à-dire que c'est un homme dont vous allez raconter mieux que moi l'histoire, qui, avec qui vous avez beaucoup échangé, beaucoup travaillé, et qui justement ne veut pas qu'on présente son crime comme un symptôme, et pour qui c'est très important de dire « mais mon geste n'était pas fait sous le coup de la folie et je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ». Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs d'Europe 1 cette trajectoire qui est tellement illustratrice des liens entre la psychiatrie et la justice, je trouve ?
Alors, pour résumer en quelques mots, on est dans au début des années 2000, dans un petit bar du sud de la France, dans une toute petite ville, et puis, comme on le dit, il y a quatre personnes qui tapent le carton, les habitués, et puis il y a un jeune garçon qui a 17 ans, qui est derrière le bar, et à qui on demande à servir une boisson aux habitués. Et puis il tarde un peu, parce qu'il est en train d'essuyer 2-3 verres, son père est en train de faire la sieste au premier étage, et puis un des habitués du sud de la France, un peu grande gueule, lui lance « Petit, si tu me sers pas, je te mets 2 gifles ». Voilà, c'est un truc d'autant plus complètement banal. Sauf que ce jeune garçon, il entre dans une maladie, il rentre dans des troubles psychiatriques, et il a le sentiment que cette phrase, uniquement cette phrase, a été la cause pour lui de tous les désagréments de sa vie jusqu'à l'âge de 34 ans. Donc ça veut dire que pendant 17 ans, tous les jours, il va ruminer cette phrase comme étant la cause de tous ses maux. Et 17 ans, jour pour jour, après, il va se présenter au domicile de ce monsieur, il va se présenter alors que ce monsieur est en train de faire des courses et il va lui tirer 2 balles dans la tête. Voilà. Et pour lui, ce qui est important, pour monsieur Zinot, parce que les psychiatres vont se succéder, parce que les psychiatres vont diagnostiquer tous chez lui une maladie mentale, parce que les psychiatres vont dire qu'il doit être soigné, ben pour lui, le rendre fou, c'est enlever la légitimité de son geste. Pour lui, son geste, il était fait pour rétablir la justice. Et si on lui enlève la légitimité de son geste, c'est-à-dire si on dit qu'il est malade, eh bien, ça lui enlève ça et ça ne rétablit pas la justice. Donc lui va se battre tout au long de son procès et de ses procès, parce qu'il va faire, il y a eu un appel, pour être reconnu responsable. Et aujourd'hui, les avocats ne peuvent pas plaider à l'encontre de leur client. Donc les avocats n'ont pas pu plaider l'irresponsabilité pénale.
C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit comment la paranoïa peut vous enfermer au carré. C'est-à-dire qu'en fait, dans la paranoïa, c'est la certitude qui sert de preuve. Donc, il s'auto-persuade que cette phrase est le déterminant unique de tous ces malheurs, tous les malheurs qui suivent. Et donc, il va tuer. Et dans son délire paranoïaque, il se persuade qu'il est spolié de quelque chose si on lui retire le diagnostic de maladie, enfin si on lui impose le diagnostic de maladie mentale. Donc c'est, moi je trouve cette histoire absolument fascinante parce qu'elle montre comment la folie peut être très désorganisée, comme chez un schizophrène avec un délire qui part dans tous les sens. Et puis la folie peut être extrêmement structurée avec un axiome de départ et si vous l'acceptez, vous êtes perdu quelque part parce que tout s'enchaîne de manière extrêmement logique.
C'est ça. Le postulat de départ est faux et le développement ensuite du raisonnement a une apparence de cohérence.
Et si on en parlait entre 15h et 16h tous les jours sur Europe 1, on est avec vous Marie-Estelle Dupont et on accueille aujourd'hui le docteur Laurent Layet, psychiatre, et auteur du livre « Au pays des ombres » aux éditions Mareuil et le patron de l'unité pour malades difficiles de Montfavet près d'Avignon. D'ailleurs, l'UMD de Montfavet qui a accueilli Camille Claudel pendant 40 ans, hein, On va en parler juste après la petite pause. On va en parler, évidemment, on va continuer à parler de ces malades qu'on qualifie parfois un peu de façon trop simple de déséquilibrés. Voilà, qu'on déresponsabilise parfois lorsqu'ils ont commis un crime. On parle des liens entre psychiatrie et justice. Restez avec nous, 01 80 20 39 21. Petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres.
15h, 16h sur Europe 1.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359 € par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, motion hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 €. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Qu'est-ce qui vous fait aimer les soldes ? C'est de payer un survêt à vos enfants ?
Pour aller au sport ou battre des records de bêtises avec leurs potes ?
Chez Decathlon, durant les soldes, le haut ou le bas de survêtement Umbro Junior est à moins 50%, soit 18,99 € au lieu de 37,99 €. Soldes selon date légale dans la limite du stock disponible.
Là, vous entendez ? Et vous vous dites, 2026, les bonnes affaires, le roi Merlin reprennent. Et alors là, quand je dis que jusqu'au 28 février, la pose de votre poêle à boire et à granuler par notre partenaire Cabane est à 1 € seulement, là vous vous dites, 2026, ça envoie du bois.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Informations sur cabane.com. Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test ?
Attendez. Maman, t'as fait du poisson ?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de 2 paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le 3e est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Et vous, il n'y a que Poltrone Sofa qui transforme les soldes
en or.
Sur la collection 3 pour vous, faites des affaires en or avec 50% de remise, plus 20% supplémentaire et plus 10% encore.
Ce sont les triples soldes en or.
Jusqu'à samedi, uniquement chez Poltrone Sofa.
Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Et si on en parlait sur Europe 1, on est ensemble et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel ?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto ?
Yes.
À partir de 15 900 € et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte ?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000 € déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein. Elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant ? DS Automobile présente, numéro 4, DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 395 € par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ?
Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'au 17 janvier le lot de 6 kiwis verts pour seulement 2 €. Et grâce à votre carte Waouh, cagnottez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits Fredéal.
2 € les 6 kiwis ? C'est Kiki qui va se régaler.
Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin et drive, 45 centimes vendus seuls, origine France, catégorie 1, calibre 85-95, jour Waouh non valable le week-end, conditions en magasin et sur auchan.fr.
on peut penser que les voitures familiales sont réservées aux familles. Ou on peut se dire que les amis, c'est aussi la famille. Nouveau Dacia Jogger, la familiale jusqu'à 7 places réservées à tous. Découvrez-la à partir de 18 700 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Désormais disponible avec moteur hybride 155 chevaux.
Offre à particulier du 1er au 31 janvier pour Dacia Jogger Essential Eco G120, 9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Chez Orange, on sait qu'Alexis, ce qu'il aime, c'est...
tout filmer.
Et ce réalisateur en herbe n'a peur que d'une chose.
Oh non, j'ai plus de batterie.
Heureusement, avec l'iPhone 17 Pro et son autonomie prodigieuse de 31 heures, tout est sous contrôle. Et pendant les soldes, il y a jusqu'à 250 euros de remise immédiate sur les iPhones, sans forfait et sans engagement.
Et... action !
Orange est là.
Offre valable jusqu'au 21 janvier, hors reconditionné. Voir détails et conditions en boutique ou sur orange.fr.
Europe 1, le journal permanent.
Le journal permanent avec vous, Émilie Dez.
Pour rester libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Le message d'Emmanuel Macron dans ses vœux aux armées, il appelle à faire plus en matière de défense, veut mobiliser 36 milliards d'euros de plus d'ici 2030. Le chef de l'État qui a présidé ce matin un conseil de défense consacré notamment au Groenland, convoité par Donald Trump. La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège vont déployer des militaires dans le territoire arctique pour une mission de reconnaissance. Les premiers soldats français sont arrivés sur place. D'autres moyens terrestres, aériens et maritimes suivront dans les prochains jours. Les pays du Golfe veulent dissuader Donald Trump d'intervenir en Iran. Ils mettent en garde contre de graves répercussions pour la région. L'Iran se défendra contre toute menace étrangère, a prévenu ce matin le chef de la diplomatie iranienne. Donald Trump affirme que les tueries ont pris fin en Iran. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd'hui. La répression en Iran a fait plus de 3000 morts, 20 000 selon certaines sources. Au moins 10 000 manifestants ont été interpellés. Plus de 70 tracteurs ont convergé vers la préfecture du Rhône au centre de Lyon à deux jours de la signature de l'accord avec le Mercosur. Les agriculteurs restent mobilisés. Ils dénoncent notamment la baisse des prix qui tue le métier. Notez que les 52 militants de la Confédération paysanne qui avaient été interpellés hier après avoir forcé l'entrée d'une annexe du ministère de l'Agriculture ont été relâchés. Aucune violence ou dégradation n'a été commise, explique le parquet. Les élèves d'une école privée de Maison Lafitte dans les Yvelines vont pouvoir retrouver leur cour de récré. Elle était inaccessible depuis la rentrée car jugée trop bruyante par les voisins. Un accord amiable a finalement été trouvé, annonce l'établissement. Le taux du livret A va baisser au 1er février à 1,5% contre 1,7% actuellement. C'est la conséquence du ralentissement de l'inflation. Le taux du livret d'épargne populaire réservé aux plus modestes va passer à 2,5%. Et puis l'équipe de France de handball affronte la République tchèque ce soir au tour préliminaire de l'Euro de handball. Les Bleus, champions d'Europe en titre. La compétition est organisée cette année dans trois pays, le Danemark, la Suède et la Norvège.
Merci Émilie Dez, on vous retrouve dans une demi-heure à 16h.
Marie-Estelle Dupont,
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Et si on en parlait tous les jours sur Europe 1 avec vous Marie-Estelle Dupont, vous accueillez aujourd'hui le docteur Laurent Layet, psychiatre, auteur du livre « Au pays des ombres » aux éditions Mareuil et ancien patron de l'UMD de Montfavet à Avignon, l'unité pour malades difficiles. Ancien patron de l'UMD de Montfavet. On évoque les liens entre psychiatrie et justice. D'ailleurs, docteur, avant d'entendre Marie-Estelle, quand un crime est commis, on entend souvent dire que c'est un déséquilibré. Et puis, il échappe à la justice. Alors ça a du mal à passer dans l'opinion. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce terme de déséquilibré ?
Alors, d'abord, c'est un terme générique qui recouvre, à mon avis, qui est tout à fait imprécis. Et alors, je vais le redire, hein, ce chiffre de 0,4%. Oui. Donc, si c'était déséquilibré, renverrait à la maladie mentale, il y a que 0,4% des patients, parce qu'à ce moment-là, ça devient des patients, donc qui échapperaient à une peine de détention. Après, je défie quiconque de aller en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est irresponsabilisé pour raison psychiatrique, il va à l'hôpital. À la différence d'une peine de prison, la peine de prison, elle est prononcée à un moment donné, vous savez quand est-ce qu'elle se termine. Lorsque vous allez à l'hôpital psychiatrique, vous savez quand vous rentrez, et la seule chose qui déterminera votre sortie, c'est si vos troubles sont stabilisés. Et en fait, il est démontré maintenant que pour des gens qui ont des pathologies mentales graves, ils restent beaucoup plus longtemps à l'hôpital psychiatrique que ce qu'ils seraient restés s'ils avaient été condamnés pour le crime dans lequel ils ont été mis en cause. Donc ça aussi, ça va lutter contre des idées reçues. On passe beaucoup plus longtemps à l'hôpital psychiatrique.
C'est une décision du préfet quand on est interné.
Alors non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est irresponsabilisé, c'est une décision de justice, mais c'est vrai, vous avez raison. Ensuite, la justice perd la main. Et ensuite, vous passez sur une mesure administrative, et la mesure administrative est gérée par le préfet.
Oui, et puis je pense que c'est important de rappeler également que les conditions de vie en service de psychiatrie sont réellement difficiles. Il y a quelque chose d'un univers un peu carcéral. On n'a pas sa cigarette à l'heure qu'on veut. Moi, j'ai vu des situations de souffrance chez des soignants, mais qui entraînaient du coup de la souffrance chez les patients. Par exemple, un infirmier psychiatrique qui était en fait pas spécialisé en psychiatrie, qui ne savait pas que les schizophrènes étaient dépendants à la nicotine et qui donc voyait comme de l'agressivité de la part du patient schizophrène qui réclame sa cigarette. On a des repas qui sont en général infâmes. On se promène pas quand on veut. Donc il faut rappeler aussi que la vie dans un service de psychiatrie n'est pas un moment facile. Le soin psychiatrique est quelque chose en soi de difficile et de carcéral, sans être dans l'extrême du vol au-dessus d'un nid de coucou du film qu'on a tous vu qui est effrayant, mais c'est encore difficile en psychiatrie. Ouais. C'est important de le rappeler.
D'ailleurs, Marie-Estelle, vous êtes intervenue, vous le rappeliez tout à l'heure, en psychiatrie, et en préparant l'émission, vous m'avez parlé d'un patient qui a été interné. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Alors, c'était justement un patient qui devait aller en prison et puis qui avait eu on l'avait mis en unité pour maladie difficile parce qu'il était cannibale, mais il n'était visiblement pas en capacité d'aller en prison. Et donc, il était là parce qu'il avait tué et commencé à manger sa petite amie. Et puis à un moment donné où moi j'intervenais dans cet hôpital, il est sorti de l'unité pour maladie difficile, il a été dans une unité semi-fermée. Et un matin, j'arrive en fait et je m'apprêtais à aller voir la patiente de la chambre d'en face qui était là pour une mélancolie très grave, c'est-à-dire qu'elle ne répondait pas au traitement, donc on allait lui faire une sismothérapie pour faire passer les idées suicidaires. Donc c'était une femme qui était en très grande souffrance et qui m'a dit d'ailleurs au cours de notre premier entretien vous ressemblez à ma tante, vous savez, toute ma famille est partie en fumée à Auschwitz. Donc si vous voulez, vous arrivez déjà dans un univers où il y a vous êtes saisi quand même par les tragédies intimes que vous voyez. Et puis un matin, je ne vois pas cette patiente dans sa chambre et je ne vois pas non plus le patient dans la chambre d'en face. Et en fait, il avait récidivé et pendant la nuit, il avait tenté, il avait mordu en fait cette patiente. Il était allé dans sa chambre, il l'avait mordu. Et donc je suis allée le voir, puisqu'il a été réenfermé. Je suis allée le voir et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et en fait, c'est des moments, et Laurent Layet le décrit extrêmement bien dans son livre, vous êtes un peu dans un moment suspendu aux confins. Vous êtes dans l'humanité absolue et en même temps, vous ne savez plus très bien où vous êtes dans un univers parallèle parce que je lui demande ce qui s'est passé. Et il soupire et il me dit, alors en plus je voulais m'asseoir pour ne pas avoir l'air d'être en position de domination, mais il y avait rien pour que je puisse m'asseoir dans la cellule d'isolement. Alors je me mets contre la fenêtre qui était verrouillée évidemment et il me dit, ah bah oui mais c'était insupportable, elle ronflait. Et le ronflement de la patiente justifiait dans son récit qu'il soit repassé à l'acte, qu'il ait récidivé, qu'il soit allé la mordre. Et donc on revenait dans ce sentiment un peu du mythe de Sisyphe ou d'un éternel recommencement de passage à l'acte. Et c'est vrai que ce sont des moments qui vous marquent particulièrement en psychiatrie parce que en fait vous ne pouvez plus être dans le jugement. Le jugement ne tient pas la route en fait. Il n'y a que de la souffrance à ce moment-là. Il n'y a que de la tragédie. Et j'avais envie de raconter ce souvenir parce que effectivement j'étais jeune étudiante à l'époque et il m'a beaucoup marqué.
Ouais. On soigne qu'un patient de ce type, on le sort de sa maladie, docteur Layet ?
Alors les troubles mentaux, et ça il faut le dire, hein, la psychiatrie est une des spécialités qui a énormément progressé ces 50 dernières années, à la fois à l'aide des thérapeutiques médicamenteuses, hein, les médicaments, on a fait beaucoup de progrès, hein, et notamment dans la prescription des médicaments en psychiatrie. On est passé de la camisole chimique où c'était vraiment assommant pour tout le monde à des molécules qui sont quand même beaucoup plus souples et beaucoup plus faciles à utiliser. Mais on a aussi fait énormément de progrès dans les thérapies non médicamenteuses, les thérapeutiques non médicamenteuses, donc les différents types de thérapies. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça laisse entrevoir que certaines pathologies mentales peuvent être stabilisées. Après ça, si on parle d'une maladie comme la schizophrénie, par exemple, ça reste une maladie chronique.
Là, chez cet individu qui est cannibale, est-ce qu'on va le soigner ? Est-ce qu'un jour, il ne sera plus cannibale ?
Alors, je ne sais pas si le cannibalisme en soi-même ne peut pas être défini comme étant la nature, mais est-ce que le cannibalisme, il vient se greffer, par exemple, sur une pathologie psychotique ou une schizophrénie ? Pour revenir à la schizophrénie, aujourd'hui, on a les moyens, en tout cas chez la plupart des patients, non pas de faire guérir, on ne guérit pas de la schizophrénie, mais on apprend à vivre avec, comme beaucoup de patients apprennent à vivre avec des maladies chroniques. On parle aujourd'hui des diabétiques, on parle aujourd'hui des hypertendus, de la sclérose en plaques, etc., etc. On réussit effectivement à ce que certains patients soient stabilisés avec les traitements médicamenteux, soient stabilisés avec les thérapies, soient stabilisés en apprenant à gérer leur maladie. C'est ça aussi. Et en fait, on ne dit pas « il est schizophrène », il a une schizophrénie. C'est pas exactement la même chose.
Il y a un point sur lequel on va revenir avec vous, Marie-Estelle, et puis avec le docteur Layet, c'est l'impact de la consommation de drogue sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de la drogue, de cette addiction sur la santé mentale, sur le psyché ?
Alors d'abord, je pense que c'est important de rappeler que dans un certain nombre de pathologies mentales du registre de la psychose, justement la schizophrénie notamment, le patient a tendance à utiliser la drogue comme une thérapeutique. C'est-à-dire que l'utilisation de la drogue l'aide parfois à se rassurer sur le fait qu'il n'est pas fou, mais que c'est la drogue qui le met dans cet état. Et donc, il n'est pas rare de voir des psychotiques qui ont recours à la drogue et ensuite basculent dans une véritable addiction pour soit canaliser le délire, soit se rassurer et se donner un sentiment de contrôle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment que la consommation de stupéfiants, notamment à l'adolescence, quand il y a une chimie cérébrale qui change très très vite, précipite et peut participer à des bouffées délirantes et donc à des décompensations. Mais c'est pas la drogue elle-même qui fait que vous devenez psychotique. C'est l'individu qui a une fragilité qui est au bord de la décompensation et la drogue va être un accélérateur. Ça aussi, c'est important de le rappeler, je pense. Et puis voilà, très souvent, chez les personnes qui ont des addictions à des substances, à des stupéfiants, il faut chercher quand même soit une comorbidité avérée, soit un trouble de la personnalité de type, par exemple, borderline.
Alors, je vous rejoins tout à fait. Le phénomène des addictions, d'abord, il s'est complexifié parce que il y a une trentaine d'années, on avait souvent des mono-addictions. On avait les héroïnomanes d'un côté, les alcooliques de l'autre, etc. Aujourd'hui, on a plutôt des polytoxicomanies, c'est-à-dire des individus qui consomment plusieurs toxiques en même temps. Et puis aussi se pose aussi la question de la nature du toxique. C'est-à-dire que les drogues de synthèse, elles ont beaucoup avancé et elles se sont beaucoup répandues. Le cannabis, le THC, on a aussi des concentrations de plus en plus importantes et des consommations chez des individus fragiles et voire de plus en plus jeunes. Et comme vous l'avez très justement dit, lorsqu'on consomme des toxiques sur un cerveau en construction, ça n'a pas le même impact que si le cerveau a déjà un fonctionnement tout à fait établi. Et je ferai une petite remarque concernant la question des addictions et des pathologies mentales. Les addictions, elles aggravent les pathologies mentales, elles créent des décompensations plus brutales, elles créent une résistance aux thérapeutiques médicamenteuses, c'est-à-dire les addictions, elles ont un impact extrêmement néfaste sur les pathologies psychiatriques.
Question qu'on peut se poser, quelle est la part de responsabilité d'un individu qui prend beaucoup de drogues et qui devient déséquilibré et qui a des pathologies psychiatriques?
Alors la loi, elle est très claire là-dessus. Oui. Elle a fait la part des choses, et elle-même, la loi a évolué depuis l'ancien ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui avait fait cette distinction, et qui a demandé aux psychiatres de faire cette distinction. Il faut différencier, par exemple, quelqu'un qui va prendre un soir pour dormir un demi-comprimé d'un somnifère et qui va faire un épisode psychiatrique parce qu'il va faire une réaction particulière, et puis des personnes qui s'intoxiquent régulièrement et qui passent à l'acte alors qu'ils sont intoxiqués, soit avec l'alcool. Alors la plupart des toxiques ont un effet désinhibiteur. Mais aujourd'hui, être désinhibé par un toxique ne vous empêche pas d'être reconnu responsable. Bien au contraire, c'est plutôt un facteur aggravant.
Je pensais à la consommation au long cours. Hein. Quelqu'un qui fume 3-4 pétards joints par jour et après on dit bah oui, il a des maladies. Bah oui, ça c'est sûr.
D'autant plus s'il le fait de façon chronique parce que.
Oui, mais il a une part de responsabilité au début.
Complètement.
Oui, c'est ça.
Totalement.
Hein, oui.
Totalement. Et d'ailleurs, quand on demande au psychiatre expert de se prononcer, souvent le psychiatre expert dit que c'est quelqu'un qui a tout à fait en connaissance des effets de cette substance sur son comportement, plus qu'il en consomme depuis des années.
Bah oui, si vous tuez quelqu'un parce que vous avez consommé de l'alcool et que vous avez pris le volant, vous êtes responsable d'avoir pris de l'alcool et donc de ne pas être en état de conduire. Et depuis l'affaire Sarah Halimi, le fait de dire bah, j'avais consommé du cannabis et donc je n'étais pas responsable, ça ne fonctionne pas. Le problème de la consommation de stupéfiants, c'est quand même au long cours, elle altère beaucoup la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Elle peut ralentir les réflexes, elle peut augmenter l'impulsivité, elle peut diminuer les capacités mnésiques et d'attention. Donc c'est important de rappeler que ça a des effets, ça impacte considérablement notre vie sociale.
Comment évalue-t-on la dangerosité d'un individu? Comment est-ce qu'on se dit, tiens, cet individu va récidiver, est un danger pour la société, docteur Layet?
Alors, la dangerosité, elle s'évalue avec des facteurs, des grilles qui sont reconnues et qui ont été éprouvées par un certain nombre de publications et d'études. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'évalue pas une dangerosité au doigt mouillé.
Oui. Hein?
Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et après, en tant que psychiatre, on ne prédit pas la récidive, on évalue le risque de récidive, ce qui est tout à fait autre chose. D'accord ? Et à partir d'un certain nombre de facteurs, alors soit si on a affaire à quelqu'un qui a une pathologie mentale, on connaît les critères de dangerosité d'une pathologie mentale, l'absence de prise de tête traitement, la consommation de toxiques, on l'a dit, mais également les idées délirantes, mais également les troubles dissociatifs, enfin voilà, tout ça ce sont des éléments qui sont connus. Et puis le psychiatre est aussi aujourd'hui en capacité, le psychologue aussi, hein, d'évaluer une dangerosité un peu plus large par rapport à des critères là aussi connus comme des antécédents de violences agies, des antécédents de violences subies, une désinsertion sociale, professionnelle, sentimentale, par rapport à l'âge. Voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui sont reconnus et qui permettent de pondérer un niveau de dangerosité et d'évaluer un risque de récidive.
Oui. Marie-Estelle, en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous étiez un peu agacée par la tendance actuelle à tout pathologiser. Hein, alors vous allez
moi agacé, ça m'arrive jamais, Robin.
Là, j'ai dû me tromper. Voyons. Le terme n'est pas exact. Ne jamais perdre le sens de l'humour. Vous étiez donc étonné par la tendance actuelle à tout pathologiser, à créer des maladies. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point?
J'avais envie qu'on aborde ce point parce que évidemment là on est allé dans la psychiatrie très grave et très lourde et qui est méconnue et qui a besoin d'être expliquée. Laurent Layet le fait de manière absolument remarquable, mais je pense qu'il y a aussi une atmosphère d'époque qui, en fait, on est dans une société qui n'a de cesse de produire de la norme. On a une inflation normative au journal officiel qui est délirante. On n'arrête pas de produire de la norme sur les conduites, de la norme sur les comportements. Pourquoi ? Parce qu'on a une anthropologie très matérialiste où, en fait, on aborde l'être humain uniquement sous l'angle de ses conduites. Donc, soit la conduite est normale, soit la conduite, elle n'est pas dans la norme et, par conséquent, elle est déviante. Et moi, je pense que plus une société s'appauvrit en produisant des normes, c'est-à-dire qu'il y a conforme-toi, correspond à l'image très lisse, adapte-toi, ne pose pas de questions, ne réfléchis pas. D'abord, plus on abrase l'imaginaire, la richesse symbolique, les capacités de sublimation, etc., etc., et donc aussi plus on favorise les passages à l'acte violent, mais surtout plus on va avoir tendance à pathologiser ce qui est simplement de la singularité, de la subjectivité, et qui n'est pas de la pathologie. Et on le voit aujourd'hui, puisque quand vous prenez les premières versions des manuels de psychiatrie, le DSM, qui est le grand répertoire des maladies mentales et des troubles de la personnalité, entre sa première version et la version qu'il y a aujourd'hui, qui est très statisticienne, très behavioriste, très normative, en fait, il y a des pathologies pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le deuil est une pathologie. Et donc, je pense que quand une société a tendance à voir toute émotion Le rire, les pleurs, finalement toute émotion comme une pathologie, elle ne peut que créer aussi du déséquilibre. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce que aujourd'hui, on parle beaucoup des hypersensibles. Mais c'est quoi ce truc ? Est-ce que finalement, on ne peut pas prendre les choses dans l'autre sens et dire, mais les hypersensibles, c'est peut-être juste des gens normaux dans un monde qui est anormalement dénué d'empathie et de sensibilité ? Et je trouve que c'est quand même important de se demander parfois où est la folie dans un monde qui est capable de voir les enfants comme des éléments gênants dans l'espace public. Je me demande si parfois la folie n'est pas du côté des gens raisonnables. Mais ça, c'était juste pour mettre un petit peu de piment dans la discussion.
L'émotion, toute émotion est devenue
un petit
une
peu
pathologie.
De poil à gratter.
Docteur Layet.
Alors oui, je vous rejoins tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est en train de faire un amalgame entre les maladies psychiatriques et puis on va dire les désagréments. On est de plus en plus intolérant dans notre société à l'insatisfaction, on est de plus en plus intolérant à la question de la douleur, à la douleur morale, mais des fois la douleur morale elle est nécessaire. Quand vous perdez quelqu'un, il est nécessaire d'avoir un temps de douleur morale, c'est ce qui vous permet de faire un deuil, sauf qu'aujourd'hui même la douleur morale elle est mal tolérée dans ces moments-là. Quand on vit un moment triste, ben, on a une émotion triste. Quand on vit un moment gai, on a une émotion gai. Et il n'y a rien de pathologique là-dedans. Et sauf qu'effectivement, si, comme ça a très bien été expliqué, on le met par rapport à une norme, c'est-à-dire par rapport à quelque chose qui serait la neutralité, on aurait la nécessité d'être tout le temps dans cette neutralité. Et dès qu'on s'écarte de cette neutralité, bah, il faudrait pathologiser l'écart par rapport à une neutralité, ce qui est complètement absurde.
Mais c'est le patient qui est demandeur. Pardon, Marie-Estelle.
Et ce qui est grave, c'est que du coup, ça crée un peu une population dissociée. Parce que si on dit à quelqu'un qui a perdu un proche il y a un an et qui est encore triste, c'est pathologique, alors que peut-être que cette personne avait un lien d'attachement très fort, tout simplement. Et moi, je trouve plutôt adapté d'être triste quand on est en deuil. Alors, ça veut dire que finalement, les gens normaux, c'est les gens complètement dissociés qui n'ont jamais d'affect. Mais donc, on va vers une société de gens complètement dissociés et psychopathes. C'est très inquiétant. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ça. En fait, on a psychiatrisé la souffrance à partir du moment où c'est déspiritualisé. Quand on comprend qu'on est un être de lien et un être d'affect et qu'on est des mammifères métaphysiques, comme le disait le docteur Lowenstein à notre antenne il y a quelques temps, mais en fait, l'émotion n'est pas dangereuse. Et je crois que c'est de désigner l'émotion comme dangereuse qui pourrait engendrer d'autant plus de violence et de la psychiatrisation qui est une forme de violence. Parce que dans les régimes totalitaires, on psychiatrise les dissidents. Je crois que c'est important de ne pas psychiatriser la souffrance et de faire vraiment la distinction entre la souffrance humaine qui est précisément un marqueur de notre humanité. Je suis en capacité de souffrir quand je vois quelqu'un que j'aime qui souffre. Ça s'appelle l'empathie. Et la psychiatrie avérée avec une maladie mentale qui correspond à des critères, encore une fois, je le répète, bien précis.
L'émission va toucher à sa fin dans quelques instants. Vous racontez, docteur Layet, qu'à l'UMD, l'unité de malades difficiles de Montfavet, près d'Avignon, il y a eu quelques belles histoires, notamment celle d'un artiste qui a été interné donc et qui ensuite s'en est sorti par l'art. Il est même exposé dans des galeries et il vend ses tableaux.
Ah oui, alors ça fait partie des belles histoires et ça fait partie aussi de cet héritage des aliénistes, c'est-à-dire que dans les hôpitaux psychiatriques avant, c'était des villes à part entière qui étaient quasiment autosuffisantes et certains hôpitaux psychiatriques ont gardé quelque chose de cette histoire et outre le fait d'occuper certains patients avec des activités professionnelles, on peut aussi avoir des activités thérapeutiques et parmi les activités thérapeutiques, il peut y avoir des activités thérapeutiques artistiques.
Oui.
Et c'est vrai que moi j'ai toujours le souvenir de ce patient qui ne parlait pas, qui faisait 1m90, qui disait oui, non et beau, voilà, et qu'on avait placé en maison de retraite à l'âge de 45 ans parce qu'on ne pouvait plus rien en faire, on disait que c'était un crétin profond. Voilà. Et puis un jour, voilà, la lumière est venue d'une aide-soignante, encore une fois, qui est allée le voir et en fait elle s'est rendue compte qu'il était en train de griffonner tout le temps. Et elle l'a amené dans l'atelier artistique. Et les premiers jours, il n'a rien fait, il a regardé. Et puis ensuite, on lui a donné une toile, et ce qu'il est arrivé à poser sur la toile est quelque chose qui a subjugué tout. toutes les équipes, et encore aujourd'hui. Et moi, je le promis, puisque j'ai été le premier à acheter ces toiles.
Que vous avez ces toiles
que j'ai chez moi, et que j'ai dans mon cabinet aussi, et que je trouve tout à fait remarquable. Et alors lui, sa vie n'a pas changé. Hein. Il est toujours en maison de retraite, sauf qu'effectivement, il a vendu tellement de toiles qu'il peut se payer ses cigarettes tout seul, donc il n'a plus l'allocation adulte handicapé. Mais n'empêche que, voilà, on a trouvé cet échappatoire pour lui, et ce qui fait remarquable.
Bon, et à l'UMD de Montfavet...
Quelle magnifique histoire.
Camille Claudel est passée pendant 40 ans, mais c'est une autre histoire. Hein.
Oui, mais alors ça fera l'objet d'une émission sur les pervers narcissiques, parce que j'en veux beaucoup à Auguste Rodin d'avoir mis sa maîtresse en psychiatrie pour pas qu'elle le dérange. Je suis très en colère et très énervée.
Alors, je veux bien revenir pour débattre avec vous.
Voilà. Les annonces Europe 1, retrouvées au cœur de l'histoire en podcast. Chaque jour, Europe 1 vous fait le récit de personnages, de monuments ou d'événements qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, Molière, l'illustre inconnu. Au cœur de l'histoire, un podcast à écouter dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site europe1.fr et sur l'application Europe 1. Demain, vendredi à 15h, on se retrouve pour une nouvelle émission de Si on en parlait. On parlera de quoi, Marie-Estelle
Dupont ?
Un
sujet très inspirant. On va parler des vocations professionnelles, voilà, des rêves de nos enfants, avec une invitée qui est déléguée générale de la Fondation des vocations, Sabine Van Vlaanderen-Badinter.
Voilà, ça va être une très belle émission. À demain, 15h pour Et si on en parlait sur Europe 1. Et dans un instant, c'est Pascal Praud et vous avec Pascal Praud et tous ses invités. Bonne fin d'après-midi sur Europe 1.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en rose, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle n'est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
En exclu, mon itinéraire pour trouver les meilleures affaires pendant les soldes.
Non, mais faut arrêter de se compliquer la vie. Une seule destination, les soldes Conforama. C'est jusqu'à moins 70% avec la deuxième des marques. Et avec la carte Confo Plus, tu as moins 10% supplémentaire sur le meuble et la déco déjà soldés. Pourquoi aller ailleurs ? Valable selon date des soldes et dans la limite des stocks.
Chez Orange, on sait que le porte-monnaie de Clara pendant les fêtes, il a...
Bien mangé.
Et elle ne serait pas contre ?
Oh, des petites réductions.
C'est pour ça que du 7 janvier au 3 février chez Orange, pendant les soldes, il y a jusqu'à 60% de remise sur une sélection de téléphones neufs et reconditionnés, ainsi que sur des accessoires.
Et ouais, savourez sans culpabiliser.
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 février en France métropolitaine et jusqu'au 29 janvier en Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. Conditions détaillées en boutique Orange et sur orange.fr.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant ? DS Automobile présente DS3, DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 355€ par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Pensez à covoiturer.
On te la raconte, le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Chaque jour, Christophe Ondelatte vous raconte une nouvelle histoire passionnante.
Ça n'est pas un accident de chasse, c'est une exécution.
Retrouvez On te la raconte en podcast et rien qu'en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
C'est les soldes chez But et le souci avec nos offres jusqu'à moins 50% et le crédit gratuit, c'est que vous risquez de voir les choses en grand.
Chérie, on peut plus traverser le salon.
Mais c'était les soldes.
But et votre maison bat plus fort.
Date selon arrêté préfectoral. Coût du crédit pris en charge par votre magasin et sous réserve d'acceptation. Conditions en magasin sur but.fr.
Boulanger.
Ok, à moi. Tu préfères parler de toi uniquement à la troisième personne ?
Ok.
Ou utiliser au moins un adjectif médiéval dans chacune de tes phrases ?
Il préfère les soldes boulanger, parbleu.
On préfère tous les soldes chez Boulanger. Des centaines de bons plans et le bon choix. Comme le lave-linge 8 kg Samsung fonction EcoBubble à 449€ au lieu de 606,42€. Et profitez de la livraison offerte. Boulanger. Plaisir partagé.
Jusqu'au 3 février. 15,42€ d'éco-participation. Conditions boulanger.com.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel ?
Yes, of course.
Une Corsa avec Apple CarPlay et Android Auto ?
Yes.
À partir de 15 900€ et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte ?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes, of course.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5000 euros déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Là, vous entendez ? Et vous vous dites, 2026, les bonnes affaires, le roi Merlin reprennent. Et là, quand je dis que jusqu'au 3 février, le sol stratifié Forte Artens, résistant à l'eau, est à 8,99€ le mètre carré, soit 17,89€ la botte, là, vous vous dites, cette nouvelle année, elle me botte.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Limité à 24 360 bottes sur l'ensemble des magasins en métropole.
Mieux que des soldes chez MDA. Des prix de ouf. Le lave-linge Indesit 8 kg, 1400 tours, 5 cycles rapides, est à 299,99€ au lieu de 399,99€. 60€ d'économie. Quantité limitée au stock disponible dans chaque point de vente. Voir conditions en magasin. Soldes du 7 janvier au 3 février.
MDA. Électroménager, literie, cuisine. Des arrivages permanents à prix imbattable. 180 magasins MDA et sur mda-électroménager.com.
Et vous, il n'y a que Poltrone Sofa qui transforme les soldes
en or.
Sur la collection 3 pour vous, faites des affaires en or avec 50% de remise, plus 20% supplémentaire et plus 10% encore.
Ce sont les triples soldes en or.
Jusqu'à samedi, uniquement chez Poltrone Sofa.
Poltrone Sofa,
solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Mais où peut-on trouver 60% de remise sur le deuxième lot de cookies granola?
Et si j'en achète, je peux même jouer au grand jeu?
Eh oui, ça c'est pépite. Jusqu'au 25 janvier, profitez de 60% de remise immédiate sur le deuxième lot de cookies granola Luc, soit 6,79€ les deux lots au lieu de 9,79€.